Ouvrez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. À tous nos auditeurs sur Radio G 101.5 FM. Je suis Bénédicte, vous êtes sur Un autre regard. L'émission où l'invisible devient visible et où les mystères de l'univers se dévoilent au-delà de la réalité pure. Un mardi sur deux, les semaines impaires à 21h, dans cette émission, nous plongerons ensemble dans les profondeurs du paranormal. Nous partirons à la découverte des phénomènes inexpliqués, de faits déroutants et d'événements bizarres qui défient la logique. Nous explorerons l'ésotérisme et l'occultisme, et nous revivrons les mythes et les légendes. Que vous soyez un passionné du surnaturel ou que vous soyez sensible aux énergies des lieux, ou simplement quelqu'un de curieux, cette émission est faite pour vous. Je compte sur vous, bien sûr, pour participer, réagir, poser vos questions et même témoigner d'un événement paranormal. Sans plus attendre, traversons ensemble le miroir de la réalité. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de deux thématiques fascinantes, la résilience et les runes. La résilience, c'est cette capacité extraordinaire à surmonter les épreuves, à renaître de ses cendres, après les tempêtes de la vie. Comment trouve-t-on soi la force de se relever après un traumatisme ou une difficulté? Dans une deuxième partie, nous partirons à la découverte des runes, ces anciens symboles porteurs de sagesse et de mysticisme. Utilisés à travers les âges pour la divination ou la magie. Quel est leur rôle dans notre quête de sens et de guidance spirituelle? Pour nous éclairer, nous aurons la chance d'accueillir Joëlle, runologue et cartomancienne de Brest, qui nous partagera son savoir unique et sa vision des runes dans le... Alors installez-vous confortablement, j'ai eu envie de parler de la résilience. Alors la résilience, c'est la capacité à surmonter des moments difficiles, à rebondir après des épreuves et à se reconstruire. C'est au cœur de la psychologie positive et ça nous aide à comprendre pourquoi certaines personnes arrivent à se relever face à des événements traumatiques ou tragiques tandis que d'autres sont submergées. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la résilience et les histoires fascinantes de personnes ayant démontré une résilience exceptionnelle en connexion avec le paranormal et le surnaturel. Alors, ce qu'il faut déjà dire sur la résilience, c'est qu'elle est étudiée depuis les années 70, alors principalement chez les enfants ayant grandi dans des environnements très hostiles. Comment est-ce qu'elle se manifeste finalement au quotidien? Cette résilience, elle se manifeste surtout face à des événements qui sont personnels, des ruptures amoureuses, des pertes d'emploi, un deuil. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même une force, une sorte de force intérieure qui permet de faire face aux défis de la vie, de s'adapter aux changements et de continuer à avancer malgré les obstacles. Chaque individu, bien sûr, rencontre des défis et la résilience se manifeste de différentes manières. Ça ne veut pas dire qu'on évite les problèmes, mais plutôt qu'on accepte le fait qu'ils font partie de la vie. Que face à un échec ou à une perte, personne résiliente reconnaît tout de suite la situation et cherche à aller de l'avant. Alors, être résilient dans la vie quotidienne, c'est avoir une attitude qui est optimiste malgré les épreuves. Alors ça ne veut pas dire qu'on nie totalement les émotions négatives, qu'on n'est pas du tout à l'écoute, mais plutôt qu'on est capable de les gérer tout en croyant que les choses peuvent que s'améliorer avec le temps. La résilience, c'est aussi quelque part savoir s'adapter. Elle se repose sur des compétences pratiques comme la gestion du stress, la recherche de solutions et la capacité à s'adapter à de nouvelles situations. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que les personnes résilientes, elles n'ont pas affronté ça toutes seules, donc elles s'entourent souvent de proches, d'amis ou de professionnels pour les soutenir émotionnellement et les aider à traverser les moments difficiles. Donc c'est vraiment savoir demander de l'aide et savoir où la trouver. La résilience, ça implique également le fait d'apprendre des épreuves. Alors plutôt que de se focaliser sur les effets négatifs d'une situation, on va dire que les personnes résilientes cherchent à en tirer des leçons pour mieux gérer les futures difficultés. Et puis au quotidien, il est quand même facile de se faire submerger par les petits problèmes. La résilience, ça va aider à relativiser les événements et à comprendre qu'ils font partie d'un parcours plus large que c'est qu'une toute petite partie et qu'on ne doit pas, du coup, focusser dessus. Donc, en somme, ce qu'on peut dire, c'est que la résilience, c'est une compétence essentielle pour vivre de manière plus sereine et plus équilibrée, en tirant des forces des difficultés et en transformant les moments de crise en opportunités de croissance. Effectivement, c'est facile à dire. On va voir ça ensemble un peu plus en détail. Qui parmi nous n'a jamais fait face à un moment où il fallait choisir entre abandonner ou continuer, même si c'était difficile? La question de la résilience, ça repose là-dessus finalement. Alors, les mécanismes psychologiques de la résilience, ils sont fascinants et complexes. Donc, il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place par notre cerveau. On peut par exemple modifier la manière dont on perçoit un événement, qu'il soit stressant ou traumatique. C'est-à-dire, plutôt que de voir un échec comme une catastrophe, une personne résiliente pourra le percevoir comme une opportunité d'apprentissage. Ce qu'on appelle un recadrage mental. Plutôt que de combattre les émotions négatives ou de tenter de les éviter, quand on est résilient, on a une tendance à les accepter comme une partie intégrante de leur expérience. Et ça permet de mieux gérer la détresse sans se laisser submerger. Et puis, on peut, quelque part, un petit peu comme une allergie, se désensibiliser effectivement au stress, et on peut apprendre à diminuer la réponse émotionnelle intense qui est associée. Donc comment on peut faire ça? Donc les différentes techniques, il y a toujours l'optimisme et la vision positive, ça je crois qu'il n'y a pas besoin de creuser. Il y a aussi le fait qu'il faut croire en notre propre capacité à surmonter les difficultés. Hein, ceux qui possèdent un fort sentiment d'auto-efficacité sont plus susceptibles d'affronter les problèmes de manière proactive et de chercher des solutions qui sont créatives. Et puis, il faut aussi avoir une bonne capacité à s'adapter mentalement aux nouvelles situations, à changer de perspective, à trouver des solutions qui sont innovantes. Donc, c'est vrai que quand on a un mode de fonctionnement un peu rigide, quelquefois, on s'accroche à une seule manière de voir ou de faire les choses, et on a souvent du mal face à l'adversité. Quand il y a le fameux grain de sable qui se met dans le rouage, on a du mal, effectivement, à fonctionner autrement. Donc, la flexibilité, au contraire, ça va permettre de s'ajuster rapidement à de nouveaux défis. Et puis, on peut cultiver la gratitude. C'est-à-dire qu'effectivement, elle permet de se focaliser sur les aspects positifs de sa vie. Même en période de crise, il y a toujours du positif, quelque part. Donc, au lieu de se focaliser uniquement sur le petit truc qui va pas, il faut se focaliser sur le reste qui va. Et ça aide à être plus résilient face aux épreuves. En voilà un petit peu plus sur la résilience en général. Je vous propose une petite pause musicale avec quelqu'un qui était extrêmement résilient vu tout son passé effectivement dans sa jeunesse. Je vous propose d'écouter ensemble Tori Amos avec Crucify. For a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, dropping another nail in, just what God needs, one more victim.
Crucify my looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving up an alien. Where are those angels when you need them? Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself, and nothing I dare was good enough for you.
Écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G, toujours sur la résilience, cette capacité à surmonter les épreuves, à aller de l'avant quoi qu'il arrive. Nous allons parler maintenant de quelques exemples inspirants concrets de résilience dans le cadre du paranormal, du surnaturel et de l'exotérisme. Alors, ces histoires illustrent comment des individus ont surmonté des expériences extraordinaires, parfois effrayantes, pour non seulement survivre, mais aussi transformer leur compréhension de ce monde mystérieux qui les entoure. Mon premier exemple, je vais vous parler de Ed et Lorraine Warren. Vous savez, si vous avez vu le film Conjuring, Annabelle, Amityville, vous savez qui sont les Warren. Donc là, on va voir ce que la résilience dans l'enquête paranormale. Donc Ed et Lorraine Warren sont parmi les enquêteurs paranormaux les plus célèbres de l'histoire. C'est un couple qui a passé plusieurs décennies à enquêter sur des phénomènes surnaturels et à aider des familles à affronter des entités maléfiques. Malgré les critiques, les doutes et les dangers qui sont liés au travail, ils ont continué à démontrer une résilience impressionnante face à l'inconnu et au surnaturel. Alors les Warren, ils ont enquêté sur des affaires qui sont notoires, comme la maison d'Amityville, le cas de la poupée Annabelle, l'affaire aussi de la famille Perron, qu'on peut voir dans The Conjuring. Donc ces cas impliquaient des phénomènes paranormaux qui étaient intenses, notamment des possessions démoniaques et des hantises violentes. Donc effectivement, ils ont dû vraiment faire preuve de résilience. Alors, Lorraine en particulier, on rappelle qu'elle est médium, elle a souvent été confrontée à des entités qui sont très sombres. Elle a déclaré que sa foi et son engagement vers la lumière et le bien l'ont aidée à maintenir une stabilité émotionnelle et spirituelle face à des forces qu'elle qualifiait de maléfiques. Ed, lui, en tant que démonologue, était aussi une forte résilience mentale, parce qu'il se concentrait sur l'aspect technique et spirituel de chaque enquête, tout en protégeant sa famille et la famille de la personne qu'ils aidaient. Ils ont aussi fait une résilience finalement face aux critiques, car tout au long de leur carrière, les Warren ont été confrontés à de vives critiques, tant de la part du public que des scientifiques qui étaient plutôt sceptiques. Ils ont cependant continué à aider les familles en détresse, croyant fermement à leur mission spirituelle. Alors, s'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est que les Warren illustrent la résilience face à l'inconnu et à la peur du paranormal, parce qu'on a quand même été dans les choses qui sont extrêmement intenses, comme je disais tout à l'heure, c'est des phénomènes qu'on voit pas tous les jours et que voilà, leur travail les a mis en contact vraiment avec des forces qui auraient pu les terrifier, mais ils ont trouvé la force de persévérer grâce à leur foi et à leur dévouement. Si on aborde un deuxième cas de résilience, je vous propose de vous parler d'Elisabeth Kübler-Ross. Donc la résilience, c'est l'exploration des expériences de mort imminente, ce qu'on appelle les EMI, ou les NDE en anglais, Near Death Experience. Alors, Elisabeth Kübler-Ross, elle est psychologue suisse et pionnière dans l'étude des expériences de mort imminente, EMI. et du processus de la mort en général. Elle a fait preuve de beaucoup de résilience remarquable en explorant des sujets qui sont tabous et qui sont souvent parfaitement incompris. Elle a largement contribué à l'acceptation de la mort comme une transition finalement naturelle et à l'étude des phénomènes surnaturels associés. Alors c'est à elle qu'on doit les fameuses 7 phases de la mort, finalement du deuil. Vous savez, la colère, l'acceptation, tout ça. Donc dans les années 60 et 70, Kubler-Ross, elle a commencé à interviewer des patients en phase terminale, documentant leur expérience proche de la mort. Beaucoup de ces témoignages parlaient de lumière brillante, de rencontres avec des êtres chers décédés, de sensations de paix, et ça remettait en cause, on va dire, les perspectives matérialistes de la mort. Alors, malgré la controverse qui entourait son travail, elle est restée résiliente face à l'opposition des milieux médicaux et scientifiques. Beaucoup la critiquaient pour avoir donné de la crédibilité au récit de mort imminente, mais elle croyait fermement que ses expériences apportaient une compréhension spirituelle de la mort. Alors bien sûr, elle était croyante. Donc elle était croyante dans l'importance finalement de la dimension spirituelle de la vie. Elle a toujours soutenu que les EMI apportaient des enseignements précieux sur l'au-delà. Et sa résilience, on va dire, repose sur sa capacité finalement à affronter la mort, à aider les mourants à se préparer à ce moment ultime et à rendre l'invisible, on va dire, plus accessible. Alors, Elisabeth Kubler-Ross, elle nous montre que la résilience ne concerne pas seulement les événements tangibles et matériels de la vie quotidienne, comme une rupture, une perte d'emploi, mais aussi des dimensions spirituelles et les réalités invisibles de l'existence humaine. Par son travail, donc avec les expériences de mort imminente, donc EMI ou ND en anglais, ça a vraiment ouvert la voie à une compréhension qui est plus profonde des mystères qu'entourent la fin de la vie. Et un troisième dernier exemple de quelqu'un, c'est pareil, normalement, il est bien connu, on va parler d'Allan Kardec. Donc Allan Kardec, il a marqué l'histoire par sa résilience face aux défis intellectuels et sociaux dans l'exploration des phénomènes médiumniques. Là, on est au début du 19e siècle, à une époque où la science était en plein essor. Donc il a défié les conventions en étudiant et en codifiant les communications avec les esprits. Son vrai nom, c'est Hippolyte Léon Denisard Rivaille. C'était un enseignant et un philosophe français. Dans les années 1850, il a commencé à s'intéresser au phénomène des tables tournantes où les esprits communiquent via des médiums. Alors après avoir recueilli des centaines de témoignages, il a compilé ses enseignements dans un livre, le Livre des Esprits, qui est devenu un texte fondateur pour le mouvement spirit. Kardec a dû faire face, bien sûr, à de nombreuses moqueries et rejets, tant de la part des cercles académiques que religieux, mais il a persévéré dans sa recherche de la vérité, croyant fermement que les esprits pouvaient nous enseigner sur la vie après la mort et la réincarnation. Donc là, on a une vraie résilience intellectuelle. Malgré les obstacles, il a continué à croire aussi que ses recherches apporteraient la lumière sur des questions spirituelles fondamentales, comme le sens de la vie, la progression des âmes et le rôle des esprits dans le monde matériel. Donc Allan Kardec, on peut dire qu'il illustre la résilience dans la quête de la vérité. Il a continué ses recherches, même face à l'adversité, et était convaincu que la dimension spirituelle pouvait être étudiée avec rigueur. Sa capacité à aller contre les idées préconçues de son époque montre une grande force de conviction. Alors, ces exemples montrent que la résilience peut se manifester dans des domaines qui dépassent le cadre de la réalité tangible. Que ce soit face à des entités paranormales, à la mort elle-même, aux esprits ou même à des extraterrestres, ces individus ont non seulement affronté l'invisible, mais ont également trouvé des moyens d'en tirer des enseignements pour eux-mêmes et pour les autres. Leur résilience face au surnaturel ouvre des perspectives fascinantes sur les liens entre l'humain et l'inconnu. Alors comment est-ce que je peux, moi, en tant que personne, développer ma résilience au quotidien? La clé, c'est certainement effectivement la gestion des émotions. Comme je disais tout à l'heure, c'est prendre du recul. Accepter ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est essentiel pour rester en équilibre lors des situations difficiles. Il faut revoir aussi ses croyances limitantes. Donc on identifie les croyances qui pourraient te freiner. Par exemple, croire que l'échec est une fin plutôt qu'un apprentissage peut limiter ta capacité à rebondir. Tu peux aussi transformer tes pensées limitantes en des affirmations positives. Ça te permet de développer une mentalité de croissance et une mentalité positive. Tu vas penser à ce que tu vas gagner et pas à ce que tu as perdu. Et puis, il faut aussi cultiver des relations positives. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que les personnes résilientes s'entourent de relations qui les soutiennent. Donc, il faut prendre soin de ces relations familiales et amicales, ça aide à créer un réseau de soutien. Et il est toujours important de partager ses difficultés avec les autres. Cela permet de libérer des émotions. Quand on en parle, on les libère. Et ça permet aussi d'obtenir des perspectives extérieures pour trouver des solutions. Car souvent, on est un peu limité dans les solutions qu'on voit. Et la clé peut venir de quelqu'un d'autre. Il faut également développer des stratégies de résolution. Lorsqu'on est confronté à un problème, on peut déjà le décomposer en petites étapes et se concentrer une étape après l'autre plutôt qu'effectivement être submergé par la masse qu'il y a devant nous. Il est parfois utile aussi de faire une pause, de respirer, de revenir à des situations avec un esprit plus calme et plus analytique. En règle générale, il faut aussi prendre soin de soi, c'est-à-dire quand on est en bonne santé, quand on a eu un sommeil réparateur, on s'est aéré la tête, il est plus facile de gérer le stress, il est plus facile effectivement de rester mentalement fort, ça c'est de toute façon, c'est une évidence. Donc on peut s'offrir des moments de détente comme la lecture, les promenades dans la nature, des activités créatives, ça permet de recharger ses batteries, de penser complètement à autre chose et de ne pas être finalement mangé par nos émotions. Comme je disais tout à l'heure, il faut établir des objectifs qui sont réalistes et flexibles, c'est-à-dire des choses qui sont atteignables. Et je vais me concentrer étape après étape au lieu de me concentrer sur le process dans son intégralité. Il faut réaliser au quotidien qu'il y a des tas de petites victoires qui renforcent notre confiance en nous et qui nous encouragent à continuer malgré les obstacles. Donc le tout, c'est d'effectivement observer ce qui s'est passé dans notre journée et d'en extraire les choses sympathiques ou les petites victoires qu'on a eues. Et puis, il faut relativiser tout simplement, lâcher prise. Accepter qu'il y a des choses qu'on peut pas tout contrôler de toute façon. Il y a des choses effectivement qui échappent à notre pouvoir. Et une fois qu'on a réalisé qu'on ne peut pas contrôler 100%, ça va réduire l'anxiété, ça libère de l'énergie pour se concentrer sur ce qu'on peut changer pour tout, plutôt que de se concentrer sur ce qu'on ne peut pas changer. L'optimisme, hein, maintenir effectivement, c'est pas une vision naïve du monde, mais c'est maintenir une croyance en la capacité, en sa capacité propre à surmonter les défis. S'entraîner à voir le côté positif des choses, même dans les moments difficiles, le fameux verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc ces exemples démontrent que la résilience peut finalement s'exprimer face à des réalités qui dépassent l'entendement humain comme avec le paranormal ou dans des choses extrêmement matérielles. Dans la vie de tous les jours, suite à un deuil, suite à un traumatisme, suite à une perte d'emploi, une séparation amoureuse. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que la capacité à persévérer face à l'inconnu et à puiser sa force et sa sagesse dans son propre intérieur, elle montre finalement que la résilience, ça ne se limite pas à des défis visibles ou physiques. Ça peut englober aussi à notre propre confrontation avec les doutes, les peurs les plus profondes de notre existence. Alors la résilience, ce n'est pas une capacité qui est innée, comme je dis, elle peut être développée et renforcée, ça se travaille. Donc elle nous permet non seulement de surmonter l'adversité, mais aussi de grandir à travers elle. Donc si vous êtes en train de traverser une période difficile, rappelez-vous que la résilience est en vous. Vous avez déjà surmonté tant de choses et vous avez la capacité de continuer à avancer. La résilience, c'est finalement comme un muscle. Plus vous la travaillez, plus elle devient forte. Alors après avoir exploré cet exemple fascinant de résilience face au paranormal, au surnaturel, je vous propose une petite coupure musicale, car nous nous intéresserons après à notre deuxième sujet de la soirée, les runes. Alors c'est des anciens caractères germaniques qui sont souvent associés à la divination, mais en fait c'est bien plus qu'un simple alphabet. C'est utilisé depuis des millénaires pour communiquer avec les forces invisibles. Les runes représentent un pont finalement entre le monde matériel et le monde spirituel. Nous allons plonger juste après cette pause musicale dans l'univers des runes, ces symboles énigmatiques qui continuent de fasciner et de guider ceux qui cherchent à comprendre les secrets de l'invisible et leur dimension magique. Et on retrouve tout de suite Agnès Obel pour Riverside. Thank you.
with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside.
Regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, de retour sur Radio G, on parle des runes. Les runes sont de mystérieux symboles utilisés par les anciens peuples germaniques et scandinaves. Il fascine toujours encore aujourd'hui. Connue principalement comme un ancien alphabet, elle possède également des pouvoirs ésotériques liés à la divination et à la magie. Donc nous allons explorer ensemble leur histoire, leur symbolique et leur usage dans le cadre de pratiques magiques et divinatoires. Alors le mot rune, déjà, il provient du vieil anglais rune et du vieux norrois rune qui signifie secret, mystère ou encore chuchotement, murmure. Selon la mythologie nordique, les runes auraient été découvertes par Odin, le dieu principal du panthéon nordique. La légende raconte qu'Odin, en quête de sagesse, s'est pendu à l'arbre du monde, le fameux Yggdrasil, et s'est percé de sa propre lance. Et il est resté suspendu pendant 9 jours et 9 nuits, sans boire ni manger, souffrant et méditant, jusqu'à ce que les runes lui soient révélées. Donc c'est ce sacrifice qui a permis à Odin d'accéder à la connaissance des runes qui contiennent à la fois le langage et la magie. Il les a ensuite partagées avec les autres dieux et les hommes, leur offrant ainsi un outil puissant pour la communication, la divination et l'invocation des forces mystiques. Alors cette origine divine, on va dire, confère aux runes un caractère sacré et mystérieux qui les lie à la fois à la sagesse, au destin et à la magie. Alors, il y a beaucoup de poèmes runiques qui décrivent chacune des runes et leur signification, et ça renforce, on va dire, la dimension ésotérique et spirituelle des runes. Alors, les runes proviennent du futhark, c'est un alphabet utilisé par les peuples germaniques vers l'an 150. Alors, l'origine précise reste floue, bien sûr, mais elles apparaissent dans des contextes variés, qu'elles soient gravées sur des pierres tombales, des armes ou des objets du quotidien. Leur usage ne se limite pas à la simple écriture, car elles sont également chargées d'une puissance symbolique. Alors, il faut distinguer le futhark ancien. C'est un alphabet de 24 runes qui était utilisé dans l'Europe germanique jusqu'à à peu près l'an 800. Et le futhark récent, c'est une version réduite à 16 runes qui est utilisée principalement en Scandinavie, je vais y arriver, de l'an 800 à 1100 après Jésus-Christ. Alors, après la simplification, l'époque effectivement médiévale rajoute des runes pour mieux correspondre à l'évolution de la langue. Il y a des versions également régionales qui apparaissent, comme des runes anglo-saxonnes par exemple. Et à partir du XVIe siècle, les runes perdent leur attrait et ne restent que, l'attrait, on va dire, ésotérique divinatoire. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un regain à partir du XIXe siècle avec la période romantique et les courants nationalistes. Les runes sont remises en avant. Donc ce ne sont pas seulement des caractères linguistiques, mais aussi des outils spirituels qui sont utilisés pour la magie, les rituels religieux et la divination. Bien sûr, à travers les âges, le futhark il a évolué. Des runes ont été ajoutées, des runes ont été enlevées, on a vu ça tout à l'heure. Ce qu'on peut dire sur la signification symbolique des runes, c'est que chaque rune possède une signification spécifique. Elle est souvent liée à des éléments naturels, à des concepts spirituels ou à des forces cosmiques. Alors voici quelques exemples des runes qui sont assez populaires dans la divination. Feiyu, il est associé à la richesse, la prospérité et l'abondance. Uruz représente la force brute, la santé et l'endurance. Anzuz, connue comme la rune d'Odin, elle est liée à la communication divine, à la sagesse et à l'inspiration. Reido symbolise le voyage, qu'il soit physique ou spirituel, et l'évolution. Alors dans la divination, ces runes sont tirées ou jetées pour obtenir des réponses à des questions complexes. Et leur interprétation dépend bien sûr de leur position et des runes environnantes. On va faire un petit zoom sur les runes comme un outil de divination. Alors l'utilisation des runes pour la divination, c'est ce qu'on appelle le runemal. C'est une pratique qui est très ancienne. Dans une consultation de runes, on choisit au hasard on jette les runes pour révéler des messages divins ou des conseils pratiques. Alors bien sûr, il existe, comme pour le tarot, plusieurs méthodes de consultation des runes. Alors le tirage à une rune, il est simple et direct, c'est pour une réponse rapide à une question précise. Et le tirage à trois runes, comme pour les cartes, je vous le disais. Les trois runes représentent le passé, le présent, l'avenir, ou encore la situation actuelle, les obstacles et le résultat probable, voilà, comme pour le tarot. Il y a aussi le tirage en croix celtique. Alors là, c'est la méthode la plus complexe, et qui est vraiment proche de celle qui était utilisée à l'époque, qui permet d'approfondir vraiment une question. La rune 1, c'est la situation actuelle. La rune 2, c'est les obstacles, les défis, ce qui bloque. La rune 3, c'est les influences passées, donc ce qui influence la situation. La rune 4, c'est les influences futures, ce qui est susceptible de se produire à court terme. La rune 5, c'est les motivations, les objectifs. La 6, les influences inconscientes, c'est-à-dire les forces cachées qui agissent consciemment sur la situation. La rune 7, c'est l'attitude du consultant, l'état d'esprit ou l'action du consultant. La 8, c'est généralement l'environnement, tout ce qui est influence extérieure, donc les facteurs qui influencent la situation. La 9, c'est l'espoir et peur, donc c'est les espoirs ou les craintes qui concernent la situation. Et la 10, c'est les résultats potentiels, l'issue probable de la situation. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avant de tirer les runes, il faut prendre un moment de méditation, de concentration pour clarifier la question. Parce que comme dans toute séance de divination, l'important est finalement de bien libeller la question pour qu'elle soit suffisamment claire, afin qu'il n'y ait pas de doute. Donc, on place chaque rune sur une feuille blanche pour bien visualiser leur position et leur signification, et on interprète en plusieurs couches. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à revenir sur chaque rune et à observer leur interaction avec le contexte général du tirage, avec celles qui sont à côté. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces méthodes nécessitent une connexion spirituelle déjà avec les runes et une compréhension qui est profonde de leur symbolisme. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Le praticien, lui, il cherche à capter l'énergie des runes pour interpréter les signes en fonction des situations spécifiques. Et il adapte la forme de son tirage à ses goûts et à sa personnalité. Les clés, c'est ça. Il ne s'agit pas de lire simplement le livret, il faut vraiment s'approprier les runes. Donc c'est le groupe Eivor et Trollabundin.
Votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G.
J'espère que ce morceau vous a mis totalement dans l'ambiance. On est toujours sur Radio G, on continue les runes, on va parler maintenant de magie runique. Alors, outre la divination, les runes étaient également employées dans la magie pour invoquer des forces, protéger des individus ou influencer des événements, comme des victoires par exemple. Dans la tradition nordique, les runes étaient gravées sur des objets, des armes ou portées comme talismans. Voici quelques utilisations magiques des runes. Or, pour la protection, certaines runes, comme Algis, étaient gravées sur des amulettes pour offrir une protection spirituelle ou physique. Pour la guérison, on utilisait la rune Berkano, qui ressemble au bé de Bluetooth, associée à la fertilité, à la croissance, et peut être utilisée dans un rituel de guérison, par exemple. Pour les charmes d'amour et de chance, des combinaisons de runes, ce qu'on appelle les bidrunes, pouvaient être créées pour attirer l'amour, la chance ou la prospérité. Or, les runes gravées ou dessinées formaient ainsi des sortes de codes magiques qui activaient des énergies particulières selon les besoins du pratiquant. L'utilisation magique des runes est une pratique très ancienne qui combine les symboles runiques avec des rituels ou des intentions spécifiques pour influencer le monde spirituel et matériel. Car chaque rune est porteuse d'une énergie particulière et leur combinaison ou utilisation individuelle permet d'invoquer des forces, de protéger, guérir, attirer ou repousser certaines influences dans la vie du pratiquant. Les runes sont souvent gravées ou dessinées sur des objets pour canaliser leur pouvoir. Comme sur les amulettes et les talismans, les runes gravées sur des bijoux ou des pierres pour protéger, attirer la chance, renforcer les aspects de la vie du porteur. Comme par exemple renforcer son courage ou renforcer sa force physique. La rune Algis, par exemple, est souvent utilisée pour des talismans de protection, tandis que Feiyu est utilisée pour attirer la richesse et l'abondance dans sa vie. Elles étaient également gravées sur des armes ou des outils. Donc, dans la culture nordique, les guerriers gravaient des runes sur leurs armes pour obtenir la protection divine et la victoire au combat. Donc, la rune Tiwaz est souvent associée au dieu Tyr, qui était souvent gravée pour obtenir la justice et la force en temps de guerre. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les runes pouvaient être combinées entre elles. Donc, c'est ce qu'on appelle les bidrunes, des combinaisons de runes pour des intentions spécifiques. Donc, les bindrunes sont des combinaisons de deux ou plusieurs runes fusionnées en un seul symbole pour renforcer l'intention magique. Alors, ce sont des outils puissants, bien sûr, pour concentrer plusieurs énergies en un seul symbole. Et elles peuvent être utilisées pour une variété d'objectifs, la protection. Donc, on peut, par exemple, combiner en bidrune Algis pour la protection et Ewaz pour la résilience spirituelle pour créer une barrière protectrice contre les énergies négatives. Si on veut œuvrer au niveau de l'amour et de la fertilité, là, du coup, on utilisera la rune Berkano qui symbolise la fertilité et la croissance. Et on la combinera peut-être avec Gebo, la rune du partenariat et du don, pour attirer l'amour ou favoriser des relations harmonieuses. On peut chanter ou réciter les runes. C'est ce qu'on appelle le galdre. Donc le galdre, c'est une technique de chant runique où les runes sont vocalisées à haute voix, donc ça doit être assez impressionnant, avec une intonation particulière pour amplifier leur énergie magique. Chaque rune a en fait une vibration spécifique qui est censée activer ses pouvoirs. Donc chanter la rune Anzuz peut invoquer la sagesse et la guidance d'Odin. On peut également utiliser les runes pour graver dans des bougies ou des objets rituels. Lors des rituels de protection, de guérison, de prospérité, les runes vont être gravées sur des bougies, l'encens ou des pierres rituelles pour infuser l'intention dans le rituel. Donc par exemple, on gravera Berkano sur une bougie verte dans un rituel de fertilité ou de guérison. Alors, l'utilisation des runes dans la création d'espaces sacrés, on peut aussi utiliser les runes dans des lieux spécifiques pour protéger une maison, un hôtel ou une personne. Donc la rune de protection comme Algis, elles sont souvent placées à l'entrée des maisons ou autour des espaces sacrés, par exemple sur des murs, sur les poutres, pour repousser les esprits malveillants. Et certaines runes sont également utilisées dans des pratiques de guérison. Donc soit en gravant ces runes sur des pierres de guérison, soit en les traçant directement sur la peau. Donc toujours Berkano, la croissance, la guérison, fertilité. Ou la gouze, qui est la rune de l'eau, qui était liée au fait au flux d'énergie, aux émotions et à la guérison émotionnelle. Donc elle est souvent utilisée dans des rituels de purification et pour harmoniser un peu les émotions. Puis bien sûr, les charmes d'amour et de chance par les runes. Les runes peuvent être employées pour influencer l'amour, la chance ou d'autres aspects de la vie quotidienne. Là, on pourra créer des bidrunes pour attirer l'amour, comme Gebo pour l'union et Unjo pour la joie. Les runes sont souvent dessinées sur du papier à ce moment-là ou gravées sur un objet que le pratiquant peut porter sur lui ou placer sur un autel pour établir une vraie demande ou s'en servir pour prédire des événements donc ou influencer une situation future. Donc Reido, qui est associé au voyage ou au changement, peut être utilisé dans des rituels pour influencer un voyage ou un déplacement important pour que l'issue soit favorable. Ou Tiwaz, qui est la rune de la justice, elle peut être employée pour résoudre un conflit, par exemple, ou un désaccord, en invoquant finalement l'énergie de la vérité et de l'équité. Une autre des phases importantes, c'est la protection magique des runes. Donc les runes sont souvent utilisées pour la magie protectrice. Donc on a Algiz. C'est une rune qui est la plus couramment utilisée pour la protection. Elle est souvent portée sous forme de talisman ou gravée sur des portes ou des murs pour protéger un espace. Ou Ewaz, c'est une rune qui est liée en fait à l'arbre Yggdrasil, le fameux arbre auquel Odin était pendu. Elle symbolise la protection contre les forces négatives et les dangers. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'utilisation magique des runes est une tradition qui est riche et très ancienne. Ça permet de canaliser les énergies des éléments, des dieux et des forces naturelles. Alors, le pouvoir réside non seulement dans la symbolique profonde, mais aussi dans l'intention et la connexion spirituelle que le pratiquant va établir avec elle. Hein, comme toute forme de magie, il ne suffit pas d'avoir fait le symbole, il faut surtout se concentrer sur lui, et c'est l'intention qu'on envoie qui va du coup faire le boulot. Explorer l'univers fascinant des runes et leur utilisation magique, il est temps d'approfondir ce sujet avec une experte. J'ai le plaisir d'accueillir une amie pour Regard Croisé, elle s'appelle Joëlle. C'est une runologue et une praticienne de l'ésotérisme sur Brest. Elle partagera avec nous ses croyances, ses connaissances sur les symboles ancestraux et leur application dans la divination et la magie. Donc je vous laisse tout de suite, découvrons Joëlle. Comment est-ce que vous avez découvert les runes et qu'est-ce qui vous a attiré vers cette pratique ?
Alors, j'ai découvert les runes suite à une rencontre insolite avec le propriétaire d'une librairie vivant à Braspar dans les Monts d'Arrée. Les Bretons seront où c'est. Et donc j'y suis retournée assez régulièrement pour acheter des livres, des jeux de cartes divinatoires, etc. Et un jour, cet homme, en me voyant, il est venu vers moi et m'a donné un jeu de runes. Il me l'a donné. Alors moi, les runes, je ne savais pas ce que c'était. Il m'a simplement dit, je suis sûre que cela vous ira. Vous avez l'énergie pour. Ce jeu, je l'ai découvert en ouvrant, parce qu'à l'époque, c'était un jeu de runes qui était fait sur des faux cailloux, quoi, hein, pour le faire. Et donc, la première chose qui m'a attirée chez les runes, c'est les signes. Et puis j'ai découvert un livre, à l'époque en français, hein, je parle bien sûr, avec lequel j'ai vraiment bien découvert ce jeu-là, enfin, les runes. Sans le savoir, j'ai toujours été attirée par les pays nordiques. Et pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai découvert bien des années plus tard que ce petit monsieur, qui est assez petit, assez rond, assez jovial, et parfois même il mettait les gens dehors quand il estimait qu'il n'était pas bien, entre guillemets, était un chef druidique du coin. Voilà.
Donc quel signe ?
Oui, tout à fait.
Alors, il me semble que vous fabriquez vous-même vos runes. Comment est-ce que vous faites ?
Les runes étaient faites avec du bois. Donc, ce sont les pays nordiques. Donc, et dans l'histoire des runes, il y a l'arbre Yggdrasil qui est à l'origine des runes. Donc, c'était fait avec du bois ou de l'écorce de bois. Et après chaque divination, chaque cérémonie ou rituel, les runes étaient brûlées. Donc, bien sûr, moi, je ne suis pas allée dans la forêt chercher du bois, mais comme j'habite en bord de mer, ça m'est venu naturellement en prenant un galet, un deuxième, etc. Une fois que je me suis lancée, je me suis rendu compte qu'il y avait, alors c'est 25 galets qu'il fallait. Donc, il y avait des galets qui allaient ensemble et d'autres qui n'y allaient pas. Je ne pourrais pas expliquer, c'est un ressenti, ça c'est vraiment du pur ressenti. Donc, je prends ces galets, je les peins et je les vernis parce que le frottement peut effacer la peinture. Et par contre, je précise que tous les galets qui restent sont remis, bien sûr, à la mer. Hein. Par contre, c'est vrai que certains galets sont faits pour certaines runes et pas d'autres. Quoi. Je peux pas expliquer ça. Ça, c'est un ressenti. Et parfois, la forme du galet aussi aide à cette décision.
Eh bien, écoutez, on pourra tous faire pareil.
Oui.
Alors, comment vous utilisez les runes, du coup, dans votre pratique quotidienne ?
Alors, dans ma pratique quotidienne, première chose, j'ai des runes un peu partout chez moi en tant que protection. Ça, c'est quelque chose que j'ai installé chez moi. Et de temps en temps, je ne fais pas tous les jours, hein, soyons clairs, hein, parce que ce n'est pas nécessaire. Mais de temps en temps, je tire une rune pour m'aider à passer un cap difficile quand j'ai des petits soucis Une rune que j'affectionne particulièrement, c'est la rune Ur. Bon, pour ceux qui connaissent, ils pourront savoir. Avec cette rune, quand j'ai des petits soucis de santé, ça me permet de... Comment expliquer ? Je ne dis pas que la rune va me guérir, mais la rune va me donner la force qu'il me faut pour aider à la guérison.
D'accord. Alors, est-ce qu'il est important de se connecter à une intention particulière avant de tirer les runes ?
Moi, je le fais. Sachant que les runes sont liées aux éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Moi, quand je fais un tirage de runes, je me centre sur ces quatre éléments. C'est pas compliqué, il y a le feu en allumant une bougie, l'eau en me lavant les mains, l'air en ouvrant la fenêtre avant de recevoir la personne, et la terre, on est sur terre, donc je me branche sur la terre pour avoir ça. Ça prend pas une heure de faire ça, c'est juste pour rentrer dans l'énergie des runes qui est très, très puissante et qui est liée aux éléments de l'univers.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous décrire le processus de divination avec les runes ? Comment vous, est-ce que vous arrivez à interpréter les tirages ? Est-ce que vous avez un truc ?
C'est comme pour les cartes. Les runes, chaque rune a une signification très claire, très précise. Et ça veut dire telle et telle chose. Mais c'est comme pour les cartes. Chaque carte a sa signification. Moi, je sais que les runes me donnent une réponse franche. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas comme les cartes ou patiti patala. Et la rune, quand elle me dit oui, après, moi, comment expliquer ça ? C'est un contact avec cette énergie. Et cette rune, quand elle me dit oui, elle me donne des indices pour pouvoir aller plus loin. Quand elle dit non et qu'elle se ferme, pour la personne, ça veut dire qu'il ne faut pas insister. C'est très franc, c'est très brutal comme énergie hein, au niveau des runes.
D'accord.
C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui acceptent que je les fasse. Mais moi, je la trouve magnifique, cette énergie. Comme pour les cartes, après, c'est une question de connexion avec le jeu.
Et puis c'est en pratiquant qu'on établit
oui,
cette connexion.
Voilà. Oui, tout à fait. C'est à force. Et j'ai même été surprise en faisant des stages d'initiation, en expliquant aux personnes présentes la signification de la rune, et d'avoir d'un seul coup la rune qui me donne une explication supplémentaire. Parce qu'en voulant expliquer, elle me dit « je ne suis pas que ça, je suis ça aussi ». Et donc moi aussi j'apprends en faisant comme ça. C'est vraiment un contact très... très physique, entre guillemets, parce qu'on les prend dans les mains, on les touche, etc., beaucoup plus que les cartes. Et donc, c'est vraiment un lien qui se crée ou pas. Parce qu'il y a certaines runes avec lesquelles c'est un peu plus difficile, on va dire. Ça, je pense que voilà. Mais celles avec qui j'ai une connexion très forte, elles m'apportent énormément. Elles me font découvrir. Et je suis persuadée que jusqu'à la fin, je découvrirai autre chose derrière. C'est vraiment la connexion avec le jeu qu'il faut avoir.
D'accord. Est-ce que vous avez vécu une expérience personnelle marquante ou mystique en lien avec les runes que vous pouvez nous raconter ?
Alors, oui, je peux en raconter une parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus personnelles, je me permets. J'ai déjà eu l'occasion de faire ce que moi j'appelle des nuits fantômes dans des lieux dits hantés. Et donc, je connais la force des runes pour protéger les personnes qui peuvent faire ça. Donc, à chaque fois que j'ai pu faire une nuit comme ça, j'ai toujours créé une rune spécifique pour chaque personne de façon à ce qu'elle soit protégée. Et c'est vrai qu'une fois, quand j'étais en train de créer cette protection sur le galet, j'avais commencé à faire la protection pour cette personne. Et finalement, je fais toujours trois runes. Et pour cette personne, il y a une quatrième rune qui est venue s'installer dedans. Alors, comme si... cette rune-là s'était imposée. Donc, en faisant le dessin, au fur et à mesure, d'un seul coup, j'ai vu que je faisais une rune supplémentaire. J'ai laissé faire, parce que, bon, voilà, il fallait... Mais ça m'a beaucoup surprise, parce que c'est comme si la rune m'avait poussée à ce que je l'inscrive avec les autres. Comme s'il fallait qu'elle soit là pour aider et donner la force aux autres. Je ne pourrais pas expliquer plus. C'était surprenant, un peu inquiétant. Sur le coup, on se dit toujours, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ? Et puis finalement, j'ai laissé. Et oui, après, j'ai compris pourquoi cette personne avait besoin d'une rune supplémentaire. Voilà, tout simplement.
D'accord. Quel conseil, pour finir, vous donneriez à quelqu'un qui souhaite débuter la pratique des runes ?
Alors, le premier conseil, ça serait de connaître un petit peu la mythologie scandinave. parce que l'énergie des runes est très marquée par ça. Et donc liée aux éléments, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc si on n'a aucun lien avec les éléments, quels qu'ils soient, moi je sais que je suis très liée à l'air, si on n'a pas cette sensation d'être lié à un élément, quel qu'il soit, la terre, l'eau, le feu ou l'air, on aura du mal à capter les choses. Et les runes prennent beaucoup d'énergie, donc il faut vraiment être bien ancré pour pouvoir le faire. Mais comme à chaque fois je dis pour les personnes qui sont intéressées, il faut prendre les runes une à une, voir celles qui nous plaisent, pourquoi, comment, etc. Mais surtout en premier, connaître au minimum quelques notions. Mais connaître Yggdrasil, Odin et quelques autres, Thor, etc., etc. Alors, je ne parle pas des films, hein. Je parle de la véritable mythologie. Parce que ça peut donner une idée de l'énergie qui nous traverse, avec laquelle on est lié, pour pouvoir vraiment entrer en contact avec les runes. Après, la meilleure chose, c'est qu'on peut, parce que moi je fais avec des galets, mais on peut faire aussi avec des cailloux qu'on ramasse sur la terre. On peut le faire aussi si on a la chance d'être dans une maison avec du bois. L'idéal, ça serait le noisetier pour le faire, etc., etc. On peut faire soi-même ces runes, c'est très important. Parce qu'en le faisant soi-même, on s'imprime de l'énergie et on donne notre énergie. Il y a un échange entre les runes et nous. D'accord. Voilà.
Eh ben, écoutez, merci pour tous ces bons conseils. On a découvert plein de choses
Avec pratiques. Plaisir.
C'est un plaisir de vous avoir, Joëlle. Merci encore.
Merci beaucoup de m'avoir appelé. Merci.
Voilà, chers auditeurs, notre exploration de cette force intérieure qu'est la résilience et des runes touche à sa fin. Nous espérons que ces échanges vous auront inspiré et ouvert de nouvelles perspectives sur les forces intérieures et les mystères des symboles ancestraux venus du Nord. Un grand merci à notre invité Joëlle pour son éclairage précieux et sa passion pour les runes. Mais ne partez pas trop loin, car notre prochain épisode, nous célébrerons une fête bien particulière pour moi. Samhain, nommé Halloween, alors ce sera l'occasion d'explorer les origines mythiques de cette nuit où les voiles entre les mondes sont plus fins et de plonger dans les légendes, les coutumes et les rituels qui l'entourent. Ce sera l'occasion de décrypter la symbolique derrière toutes ses composantes, les costumes, le trick-or-treat, la collection des bonbons, la fabrication des lanternes en citrouille, etc., etc. Donc je compte sur vous pour participer, réagir, poser vos questions et même témoigner d'un événement paranormal ou étrange dont vous avez été témoin sur la page de l'émission ou sur le site Radio G ou par mail. D'ici là, continuez à garder l'esprit ouvert et le regard tourné vers l'invisible. À très bientôt dans un autre regard.
N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.